Europe 1, les pieds dans le plat.
Cyril Hanouna.
Et on reçoit aujourd'hui dans les pieds dans le plat un des écrivains les plus populaires dans le monde. 20 millions de livres vendus dans plus de 30 pays. C'est un étrange cocktail de science-fiction, de polar, de spiritualité. Et c'est aussi le roi du tai chi, c'est Bernard Werber.
Merci.
Eh oui. Bonjour Bernard, merci d'être avec nous.
Roi du tai chi, on ne l'avait jamais fait.
Alors, si, parce que je vais vous dire pourquoi je dis ça. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, vous avez fait votre petite séance de tai chi ce matin ou pas?
Oui, mais pour moi, c'est comme se laver les dents. C'est une sorte d'hygiène. On bouge toutes les articulations pour ne pas rouiller.
Ah oui, mais je vous conseille de le faire.
J'ai vu une photo de vous dans le journal Metro News le 2 octobre dernier. Et vous êtes à fond, vous êtes dans la rue en train de faire du tai chi. Hein, vraiment, en petit pantalon à pinces, voilà, petit t-shirt.
Non, attends, j'ai tout avoué sur cette photo. Avant, j'étais photographe et je me rappelle, les gens, quand ils posent pour les photos, ils se tiennent toujours tout raides et ils font rien de spécial. Ouais. Alors j'ai dit au photographe, vous voulez que je fasse une connerie pour votre photo? Et puis j'ai fait ce geste et en effet, ça fait la couverture.
Et il paraît que chaque matin, vous descendez faire des mouvements de tai chi dans le jardin collectif de votre résidence.
Oui. En fait, le tai chi, c'est copié du... Bon, je sais pas, on l'a lancé
là-dedans.
C'est copié d'un combat d'un héron contre un serpent. Donc, c'est gestes très lents. Et tous les arts martiaux sont issus
du tai chi.
Du tai chi, voilà. C'est du tai chi rapide. Donc, il y a un autre intérêt dans le tai chi, c'est qu'on apprend à respirer. La plupart des gens respirent mal, c'est-à-dire on respire avec le haut. Ouais. Et quand on fait ces mouvements...
On respire avec le ventre. Personne n'a fait du tai chi ici, même vous, Christophe Bourseiller.
J'ai essayé.
J'ai essayé,
je trouvais ça très, très agréable. Très, très, très curieux, mais enfin, je comprenais pas grand chose au mouvement, mais j'ai trouvé ça très.
Vous avez fait combien de temps?
Oh, bah, 10 minutes.
Ah, mais... très bien. Oui,
oui. Non, mais j'ai essayé. Enfin, je
veux dire, donc, ça fait des souvenirs.
10 minutes.
Oui, oui, oui.
Il a tout fait, mais 10 minutes, Christophe Bourseiller.
Oui, c'est un peu vrai.
Un homme curieux.
Bernard, vous êtes venu nous voir l'an dernier pour votre précédent roman, Les Micro-Humains, et là, vous revenez pour le troisième et dernier tome de la saga. Hein, c'est La Voix de la Terre aux éditions Albin Michel. Alors, il fait 584 pages, et moi, je l'ai lu en 1h33 dans mon bain, tranquille, comme ça.
Franchement. Ah ouais.
Ça passe.
Comme ça.
Ah, bah oui. Comme le précédent, on a adoré, et Valérie va nous révéler l'intrigue de ce dernier volet. C'est elle qui raconte tous les livres.
Je vais essayer, parce que c'est compliqué. Alors Bernard Werber, dans ce troisième tome, vous nous mettez encore plus que les autres fois à la place de notre planète, la planète Terre. Dans La Voix de la Terre, elle devient carrément le personnage central de votre roman. Et justement, la Terre est exaspérée parce que l'espèce humaine est en train de lui faire subir. On est carrément à la veille de la Troisième Guerre mondiale. Tous les personnages que vous avez créés vont devoir décider s'ils s'unissent ou pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour sauver justement cette planète Terre? Ils vont devoir se poser une question fondamentale. S'ils veulent envisager un futur, qu'est-ce que la Terre dirait si elle pouvait s'exprimer? Et la Terre va s'exprimer dans votre livre.
Oui,
c'est pas mal.
Ça va. En effet, c'est exactement ça.
Valérie vient de le dire, mais j'insiste lourdement. Vous vous mettez vraiment à la place de la Terre. Vous la faites parler. Elle a des émotions. Elle se pose des questions. Elle s'indigne. Comment vous l'êtes imaginé? Alors, comment pour en arriver là?
Ah, bah ça c'est le travail de l'écrivain. Mais pour moi, depuis le début, je pense que nous sommes une petite espèce parasite sur un gros truc qui est une planète. Ouais, en fait, on est comme des puces sur un chien. Et de temps en temps, ça la gratte et ça fait des tremblements de terre, ça fait des volcans. Mais on est sur une entité vivante. De toute façon, la Terre est tiède, elle bouge, elle respire. C'est juste nous qui, on s'en fout d'elle, on est entre nos petites histoires d'humains. Donc c'était juste une manière de relativiser. Rappelons-nous, nous sommes une espèce jeune. La Terre a 4,5 milliards d'années. Nous avons 7 millions tout au plus d'années. Donc c'est vraiment ridicule. On vient d'apparaître au dernier épisode de l'aventure de notre planète. Et ensuite, quoi qu'on fasse, on agit qu'en surface. L'intérêt, ça serait de comprendre comment fonctionne ce système. L'une des idées que j'avais trouvées pour La Voix de la Terre, c'est que la Terre est une ovule et qu'elle attend d'être fécondée.
C'est parce que vous la personnifiez presque comme une femme, en fait.
Ouais. Ah oui. Mais de toute façon, c'est Gaïa, on dit Alma Mater, la Terre Mère. Nous venons de cette planète. D'ailleurs, il suffit d'enlever ses chaussures, il suffit d'enlever la moquette. Quand on touche avec nos pieds directement le sol, on sent une énergie. On sent que ce truc, c'est pas juste de la caillasse. Il y a quelque chose en dessous.
On va enlever la moquette alors dans le studio bientôt. Et on fera l'émission pieds nus. Vous allez voir, on sera bien, on sentira des vibrations, on sentira pas que des vibrations à mon avis. Christophe Bourseiller.
Oui. D'ailleurs, dans votre livre, la Terre, dans vos livres, parce que vous avez consacré plusieurs livres à la Terre, elle n'est pas toujours sympathique, la Terre.
Non, je voulais surtout pas faire une Terre qui se plaint, oh, boue la pollution, boue les bombes atomiques. Je vais juste faire une Terre qui soit en fait neutre, qui s'en fout un peu de nous, en même temps qu'il y a des espoirs sur nous.
Alors, dans votre livre, vous avez recréé, Bernard, une société avec des micro-humains qui sont 17 fois plus petits que nous.
10 fois.
Ah, dix fois plus petits que nous, mais qui sont plus résistants.
Mais ils sont 17 fois plus petits que vous. Voilà, c'est ça.
Ça, c'est vrai, parce que moi, je suis assez grand. Enfin, oui. Bon. Et bref, et ils sont plus résistants, plus féminins. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'on va vers une humanité à la fois plus petite, plus résistante et plus féminine?
Surtout.
Oui, bah, tout simplement parce qu'il y a eu 5 grandes extinctions d'espèces, et chaque fois, les 10% qui ont survécu, ils étaient plus petits, plus féminins, plus solidaires.
Ah, voilà.
Et, bah, bon, moi, j'utilise tout le temps le vieil exemple des fourmis. Les fourmis, c'est 120 millions d'années. À chaque problème, elles deviennent plus petites, plus féminines, plus solidaires, et elles font des cités de plus en plus grandes. Donc je n'ai fait que utiliser ce symbole qui existe réellement, que nous montre la nature, pour dire peut-être que l'humanité va connaître la même chose. C'est juste que nous, on arrive plus tard. On est les derniers élèves de l'école, donc on n'a qu'à regarder ce qui était là avant.
Si on suit votre raisonnement, on voit que les hommes grandissent de plus en plus. Donc ça va à l'encontre de votre théorie.
C'est un épiphénomène. C'est-à-dire, c'est juste parce qu'on, maintenant, on mange plus de produits laitiers, on nourrit plus les enfants avec des produits laitiers, donc ils sont plus grands. Mais là, c'est en train de se stabiliser du fait de problèmes de pollution, de problèmes de tas de médicaments qu'on bouffe. Et ça va aller en baissant. Mais de toute façon, plus il va y avoir de problèmes, plus il va y avoir de pollution, plus on va devenir petit. Et déjà, on voit dans l'océan, l'océan devient pollué, plus les poissons deviennent petits.
Apparemment, donc, c'était beaucoup pollué, moi, en 74. Il y a eu beaucoup de pollution. Alors, vous marchiez très fort à l'étranger, notamment en Asie. Comment vous l'expliquez, ça? C'est votre univers qui correspond à leur culture.
Ils sont plus tournés vers le futur. Eux, ils ont la perception que c'est un pays de... Enfin, par exemple, la Corée du Sud, le Japon et la Chine, où j'étais récemment, ils se disent, c'est nous le futur, et l'Occident, c'est le vieux continent.
C'est ça.
Donc, en tant que pays du futur, ils veulent savoir ce que les Occidentaux prévoient de plus loin devant. Donc c'est peut-être pour ça, parce que je parle de qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, ça les amuse, ça les intéresse. Et puis ils ont un passé très douloureux, enfin pour le cas de la Corée, même du Japon et de la Chine, ils ont envie d'oublier le passé.
Vous les faites rêver, c'est ça, oui, ouais, ils sont sur le futur. Exactement. Alors on a décidé de vous préparer à votre prochaine séance de dédicace là-bas avec un petit quiz sur l'Asie. Voici la première question. Très belle musique, merci.
Ah oui.
Formidable.
Mais c'est pas dans la caricature, c'était bien. Ouais.
Comment s'appelle le chien de Jacques Chirac? Maki, Sumo ou David Douillet? Bernard Werber.
Maki.
Non.
Et non,
c'est Sumo.
Sumo, bien sûr.
Mais je sais qu'il aimait les combats de Sumo, mais je savais pas qu'en plus il l'avait donné.
Il y en a un autre qui s'appelait Ducon.
Oui, c'est vrai. Il l'a dit parce qu'il avait été offert par Valéry Giscard d'Estaing.
Que vous croiserez ce soir. J'ai le pressentiment que vous allez le croiser ce soir.
Oui, moi aussi je le sens. Je sais pas pourquoi. Vous avez raison, Jean-Pierre. Moi je le sens. Champion chinois de trampoline, médaillé d'or en 2012 aux Jeux Olympiques de Londres, s'appelle Dong Dong, Ching Pong ou King Kong Pong.
Deuxième solution que j'arrive pas à prononcer, mais
Ching
au hasard.
Ching Pong. Et non, c'est Dong Dong. Voilà, et on l'embrasse. Je sais qu'il
vraiment Dong Dong.
Il nous écoute. Il s'appelle Dong Dong.
Il y a un grand pianiste qui s'appelle Lang Lang.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, comme Jacques Lang.
Ouais, c'est
bizarre aussi. Pour un trampoline, il s'appelait Bong Bong.
Mais d'habitude, ils s'appellent tous Chang. D'ailleurs, quand on appelle Monsieur Chang, on voit des tas de gens qui foncent. Ah, mais... Il y a des Chang, des Li.
Non, mais je vous dis, dans le métro, vous dites Monsieur Chang là-bas en Chine, mais tout le monde sort.
Hein.
Si vous voulez de la place dans le métro en Chine, faites Monsieur Chang, vous êtes appelé à l'accueil. Là, tout le monde sort.
Comme les Durand Dupont chez nous.
En Corée, c'est Kim. Ils s'appellent tous Kim.
C'est vrai, exactement.
C'est étonnant.
Et au Maroc, c'est Benaïm. Tout le monde s'appelle Benaïm. Vraiment, c'est là-bas. Quelle particularité à Kochik, l'élément d'Asie de 22 ans qui vit au zoo des Everlands à Yongjin, au sud de Séoul. D'accord, c'est Kochik, c'est un éléphant.
Un éléphant. Quelle particularité
voilà.
il a?
Il fait quoi? Il parle le coréen. Il trie les gens à l'entrée en les reniflant avec sa trompe. Ou il nettoie les voitures comme l'éléphant bleu.
Il nettoie les voitures?
Non, il trie les gens.
Il parle coréen.
Non, Kochik parle coréen.
Mais non.
Et je vous jure que c'est vrai, bravo. Vous connaissez Jean-Luc Lemoyne?
Oui, je le connais, je l'ai vu dans les prés.
Ah, d'accord, Kochik
dans les prés.
Kochik dans les prés. Oh là là, je l'avais pas vu arriver celle-là. Oh, bien joué, Jean-Luc Lemoyne.
Il fallait la placer là.
C'est pour ça qu'il rigolait.
Oui, rien m'abuse, vous savez.
C'est vrai. Là là, il est fort. Allez, laquelle de ces soupes sert-on en Chine? Attention, plusieurs réponses sont possibles. La soupe de pénis de tortue, la soupe de pénis de taureau ou la soupe de pénis de crocodile. Bernard Werber.
Je dirais la tortue, a priori, parce qu'ils sont très serpents reptiles, mais je sens que c'est pas ça.
Alors, je vais vous dire, c'est les trois. On sert de la soupe de pénis de tortue, de pénis de taureau et de pénis de crocodile. Qui a déjà mangé des pénis ici? Non, mais.
Elle est étonnante, votre question, quand même.
Ouais, c'est vrai. En gazpacho.
Jean-Pierre Foucault, des pénis.
Un péninis, moi, j'ai mangé.
Mais...
Oh, bravo Jean-Pierre.
C'est bien.
Oh là là.
C'est bien.
Il me semble qu'il y a une spécialité niçoise, ce ne sont pas des pénis, mais des couilles panées.
Ah, d'accord,
non.
Oui.
Non, à mon avis, je pense que peut-être. Ils t'ont vu arriver de loin, ils se sont dit, on va le faire un truc spécial.
Allez, vous restez avec nous sur Europe 1. On est avec Bernard Werber. Dans un instant, il y aura le duel de blagues qui va opposer la championne Valérie Benahim à Jean-Marie Bigard. Et le thème aujourd'hui, les hôtels. À tout de suite.
1, 2, 3 Europe 1. 16h, 18h30. Les pieds
dans le plat.
Dans le plat.
Cyril Hanouna.
Les pieds dans le plat sur Europe 1 avec Bernard Werber qui est avec nous. Merci Bernard d'être là.
Merci.
La Voix de la Terre aux éditions Albin Michel. C'est sorti le 2 octobre. C'est le troisième et dernier tome de la saga. Troisième humanité. On va en reparler bien sûr dans un instant. Et on va parler surtout de Bernard Werber puisqu'on fera le roi du bluff dans quelques minutes sur Europe 1. Pour le moment, c'est le duel de blagues entre Valérie Benahim qui nous a fait un petit peu plus rire que Jérôme Commandeur hier. Un petit peu. C'était vraiment, je vous montre un peu de choses.
C'est-à-dire qu'on n'était pas très bons tous les deux hier.
Oui,
quand même le reconnaître.
Oui, mais là, il va falloir hausser le niveau de jeu parce que c'est Jean-Marie Bigard.
Non, mais elle est favorite. Je le dis tout de suite. Tu es favorite.
Pourquoi
Valérie,
pourquoi?
Parce que j'ai une blague un peu subtile et j'ai
J'ai peur
qu'elle soit pas assez grasse pour que je gagne le truc.
Alors, très sincèrement, on rajoute deux putes et ça y est.
Ouais, vous embêtez pas. Alors, c'est sur les hôtels. Alors, c'est Bernard Werber qui va décider de qui a la meilleure blague.
Je vais peut-être gagner.
C'est pour ça. Vous êtes peut-être gagné.
Mais Bernard, il m'aime beaucoup, hein.
Oui,
mais
oui.
Je suis complètement neutre.
Oui, mais c'est avant de te connaître.
Et j'adore les blagues. Donc, je m'attends à être.
Vous en connaissez une, Bernard?
Alors, moi, je sais pas bien les raconter.
Allez, j'ai raconté
là. J'en ai une rapide. C'est deux omelettes qui sont en train de cuire dans une poêle. Il y en a une qui dit à l'autre, vous trouvez pas qu'il fait chaud par ici? Et l'autre répond, au secours, il y a à côté de moi une omelette qui parle.
Je l'aime bien.
C'est la seule avec des omelettes que je connais.
Ça. Ouais, elle est bien. Mais c'est des hôtels, hein, le thème.
Alors, c'est deux hôtels qui sont tombés.
Bravo Bernard, très fort. Alors Valérie Benahim, on démarre par vous.
Ouais.
Votre blague sur les hôtels.
Pas ce qu'il croit du tout.
Non, parce que j'essaie depuis tout à l'heure de faire l'accent belge, j'y arrive pas, donc je le ferai sans accent.
En plus, il y a un accent.
Mais j'oublie. C'est un Belge qui est en vacances, il vient d'arriver à son hôtel qui est en bord de mer et il s'inquiète des horaires de restaurant. Donc il va à la réception, il demande à la réceptionniste à quelle heure sont servis les repas. Donc elle lui dit très gentiment, le petit déjeuner est servi de 7h à 11h, le déjeuner de midi à 14h et le dîner...
Vous faites pas l'accent?
Pour l'instant, il n'y a pas encore d'accent. Et le dîner de 19h à 22h. Et là, le Belge lui dit « Ah, c'est embêtant ça, une fois !» Et la réceptionniste lui dit « Bah pourquoi ? Bah ça va nous laisser peu de temps pour aller à la plage, ça !»
Elle est pas mal. Elle est pas bien.
Merci.
Alors, je vais vous dire.
C'est tellement vrai.
Jean-Marie debout en m'applaudissant.
Le plus grand drame, c'est quoi? C'est Christophe Bourseiller qui dit que ça lui a plu. Donc là vraiment, on sait qu'on a touché le fond. Là, c'est sûr. Hein. Je rappelle, c'est le seul gars qui mange des couilles panées dans le sud. Hein.
C'était très bon.
Et comme le mec à Bayonne qui voit, il est en
c'est hors compétition là.
C'est hors compétition.
D'accord, très bien.
Non mais il voit un gars à côté de lui qui mange deux beaux trucs là allongés et tout. Il dit c'est quoi ça? Il dit c'est des couilles de taureau en fait qui viennent de la corrida. Ah bah il dit moi je veux la même chose. Ah bah dis donc, faut vous inscrire pour la prochaine corrida. Viens la semaine d'après et le mec lui amène deux petites billes dans l'assiette. Bah il dit je comprends pas, la semaine dernière c'était beaucoup plus gros. Il dit non mais là c'est le torero qui est mort.
Ah, elle est très bonne, ça, là. Alors, Jean-Marie, maintenant, vous rentrez dans la compétition avec votre blague sur les hôtels. Je vous rappelle que c'est une blague subtile.
Bah oui, vous en jugerez. Il est inquiet, non? Vous savez, il fait suivre sa femme, plus exactement, par un détective. Voilà. Et le détective, à la fin de sa première journée, il vient revoir le mari, dit alors, il dit, ben voilà, votre femme, elle est rentrée avec un homme dans un hôtel. Hein, et là, j'ai soudoyé le réceptionniste, j'ai obtenu d'avoir la chambre juste à côté. J'ai toujours ma petite chignole, les murs sont très minces. J'ai fait un trou et j'ai regardé, j'ai dit bravo. Et dit alors, ils se sont déshabillés entièrement. Ils étaient nus, tous les deux. Et alors, ils ont éteint la lumière. Et là, le mari se prend la tête, il fait... Le doute, putain, le doute, le doute.
Allez bien, allez bien.
Elle est bonne, Jean-Marie, elle est bonne.
Je l'aime bien,
elle est pas mal.
Je vais juste raconter qu'on a, trouvé la plus ancienne blague.
Ah, c'est quoi?
Qui n'est pas drôle. C'est un texte sumérien. En fait, la première blague est issue en même temps que les débuts de l'écriture. C'est en cunéiforme. C'est une blague pas drôle, je vous la dis tout de suite. Vous n'avez pas besoin de...
On a l'habitude des blagues pas drôles. On a Valérie Benaïm.
En tout cas, c'est la plus ancienne. Elle a 3500 ans avant Jésus-Christ. C'est une devinette. Qu'est-ce qui n'arrivera jamais? Et c'est qu'une femme s'assoit sur les genoux de son mari et se mette à péter. Ça a 3500 ans.
Ça, c'est la première blague.
C'est considéré comme la première, l'archéologie de la blague la plus ancienne.
Quand même, Jean-Marie Bigard a 3500 ans.
Ils étaient déjà très pipi caca, sexualité.
Ça nous fout quelque chose dans la gueule, hein, je vous le dis. Jean-Marie, vous en avez une petite?
Si, j'en ai une petite. C'est la fille qui rentre à la maison. Elle dit à sa mère: maman, je suis enceinte. Elle hurle, sa mère, comment t'es enceinte? Mais comment t'as pu faire un truc pareil? Mais où est-ce que t'avais la tête? Elle dit: sous le tableau de bord.
Non. Allez, on se retrouve dans un instant avec le roi du bluff. Trois anecdotes sur Bernard Werber qui ment autour de la table. Valérie, Jean-Pierre et Jean-Luc participent. À tout de suite.
1, 2, 3. Tous les jours, 16h, 18h30.
Les pieds dans le plat.
Cyril Hanouna.
C'est les pieds dans le plat sur Europe 1 et nous sommes avec Bernard Werber qui nous a raconté la première blague. Ah, voilà, la première blague vraiment qui est apparue. Ah, je vais la ressortir.
Les blagues sumériennes, ça.
Ouais, 5000 ans avant Jésus-Christ, non?
Non, 3500 ans. Mais c'est comme les vieux vins qu'on retrouve dans les amphores, ils sont pas forcément faciles à boire.
Non, mais c'est sûr, mais là c'est pareil, balade. Ben, mais je vous dise, elle était meilleure que celle de Valérie Benaïm qui date d'il y a pas longtemps.
Alors, j'ai un cadeau à faire à Bernard. Bernard m'a félicité l'autre jour sur Histoire de perroquet. Hein, c'est comme vous voulez, mais j'en ai une pour lui.
Alors, ce sera dans un instant, on aura l'histoire des perroquets. Pour l'instant, Valérie, Jean-Pierre et Jean-Luc vont raconter une histoire incroyable qui est arrivée à notre invité, ou pas, puisqu'il y a un menteur parmi ces trois. Alors, on a Sénan qui est avec nous. Bonjour Sénan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Sénan. Vous habitez à Rennes?
Oui.
Vous êtes en congé maternité, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ça me fait plaisir d'être avec vous.
Eh ben, nous aussi Sénan. Vous avez combien d'enfants?
Un seul.
Il est à quel âge maintenant?
Il est né au mois de septembre.
Ah, d'accord. Il a déjà 2 ans. Mec, qui est très mauvais. Hein. Mec, qui a plus du tout la notion du temps. Hein. Il a déjà 2 ans. Comment il s'appelle?
Il s'appelle Johnny. Ça veut dire la lumière en kurde.
Oh, c'est mignon.
Johnny, ça veut dire la lumière en kurde.
Ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment?
Ouais. R-O-N-I.
Parce que parce qu'eux, ils étaient en train de se dire, ouais, Johnny Hallyday, ça veut dire la lumière qui a toujours une idée, quoi. Mais c'est
Ronny Hallyday.
Qu'est-ce qu'on peut gagner, Valérie?
Alors, à l'occasion de la journée porte ouverte des 8 instituts du groupe Thalazur, Thalassothérapie Espace, Sénan, c'est le dimanche 12 octobre, bien, vous jouez pour une escale détente zen de 3 jours et 3 nuits à l'hôtel Elianthal Thalazur de Saint-Jean-de-Luz. Votre séjour sera dans un très bel hôtel, donc de 4 étoiles. Il comprendra des soins d'hydrothérapie, des soins privilèges et bien sûr, l'accès au hammam, au sauna, à la piscine d'eau de mer. Plus d'informations sur thalazur.fr, c'est un très beau cadeau.
Exactement, c'est un très beau cadeau grâce à Thalazur, bien sûr. Thalazur, vous partez sale, vous revenez pur. Jean-Pierre Foucault, votre histoire donc sur Bernard Werber.
Bernard, vous avez failli briser un mariage. Je raconte, à l'âge de 17 ans, vous êtes sorti pendant un an avec une jeune fille. 10 ans plus tard, vous la recroisez et le courant passe toujours aussi bien. Elle vous apprend qu'elle va se marier très prochainement et vous montre une photo de son futur mari et là, vous vous arrêtez net, le futur époux vous ressemble comme 2 gouttes d'eau. Elle vous avoue que vous lui plaisez toujours, qu'elle est prête à tout annuler pour vous. Vous lui dites « Banco, viens, pars avec moi, vous êtes sur le quai de la gare ». Elle hésite jusqu'à la dernière seconde et au dernier coup de sifflet du chef de gare, elle remonte dans le train et repart. Vous ne l'avez jamais revue depuis. Quelle belle histoire.
Ah, c'est beau,
moi, je vous dis que c'est vrai.
Trop romancé, ça.
Bernard, vous jouez le jeu sur les 3 histoires, bien sûr. Celle-ci, alors, vous vous en souvenez, hein?
Oui, surtout qu'elle était à Marseille.
Donc,
qu'est-ce qui ment bien?
Petit détail près, c'est que c'est moi qui étais dans le train.
Voilà. Ah, d'accord. Jean-Pierre Foucault, je rappelle qu'il travaillait lui au wagon restaurant. Également. Alors, Valérie Benaïm, votre histoire sur Bernard Werber.
Bernard, on le voit dans vos livres, vous débordez d'imagination, vous aimez inventer des intrigues, mais pas seulement sur le papier, vous adorez les jeux de rôle. Et un en particulier, il s'appelle le loup-garou de Tiercelieu. Vous êtes complètement mordu de ce jeu. D'ailleurs, vous aimez tellement ça que vous organisez très régulièrement des soirées loup-garou chez vous, avec vos amis, de bonnes bouteilles de vin chilien. Vous êtes capable de jouer plusieurs heures d'affilée et d'enchaîner les parties jusqu'au bout de la nuit. Et vous êtes le plus souvent ce qu'on appelle dans le jargon le maître du jeu. C'est vous le master of the game. Et vous avez la réputation d'avoir carrément initié la moitié de Paris à ce jeu. Tout le monde vient jouer chez vous au loup-garou de Tiercelieu.
Ah oui, le loup-garou. Ouais. Moi, à chaque fois, on m'appelle, on fait, dis-moi, tu veux pas faire Docteur Maboul, non, je peux pas, j'ai un loup-garou de Tiercelieu chez Bernard Werber, là. Je peux pas être partout, man. Alors ça c'est vrai aussi.
Oui, il y en a un ce soir.
Ah, il y a un loup-garou de Tiercelieu.
Il y a un loup-garou chez moi ce soir.
On est tous invités?
On joue, bah oui, évidemment.
Bah, chez Benaïm, il y a un loup-garou tous les soirs, c'est pas tâche.
On est tous autour d'une table et en effet, on met la musique de Dracula, on met des bougies et il y a toute une ambiance comme une pièce de théâtre, comme un film et on vit un film pendant une heure.
Ah ouais, bah ça ne peut pas m'intéresser.
C'est dur qu'une seule heure.
Ouais, je peux peut-être venir, hein, Bernard.
À,
si
à 20, oui, ça tient. Avec
c'est
plaisir.
Super drôle.
Et la partouze démarre à quelle heure? Je viendrai peut-être un peu plus tard.
Voilà, on rappelle Jean-Marie Bigard est là ce jeudi. Merci Jean-Marie. Et enfin, il y a Jean-Luc Lemoine qui a une info sur Bernard Werber.
Alors Bernard, certains auteurs aiment écrire nu, comme Jean d'Ormesson. Il paraît qu'aussi BHL de temps en temps est dans cette tenue pour
même
écrire.
Et même Jean-François Pori, pareil, celui qui écrivait Hélène et les garçons. Tout ça.
Ah, ça explique beaucoup de choses. et d'autres ont besoin de l'air pur de la campagne. Et vous avez un rituel. Vous aimez vous retrouver dans un café rue Lamarque, dans le 18e arrondissement. Mm-hmm. Et c'est là que vous écrivez chaque matin. Vous vous asseyez à la même table et chaque matin, vous commandez la même chose. Un coca, un croissant au beurre et un thé à la mûre. Le rituel est immuable, à tel point que le patron, et c'est ça une espèce de consécration, il a donné votre nom à l'une de ses formules petit déjeuner. Donc si vous allez là-bas, depuis quelques mois, vous pouvez avoir un petit Werber. Un déjeuner comprenant un soda, un croissant et un thé aux fruits.
Ah, je croyais que c'était, vous arrivez là-bas et Bernard Werber vous fait un enfant, hein, sur le bar.
Si ça se passe bien.
C'est possible aussi, c'est négociable.
C'est ça. Jacqueline, on a un petit Werber et un jambon beurre. Et tu te laveras les mains entre les deux.
Et tout ça, ça coûte 6,90€.
Très bien. Alors, est-ce que c'est vrai, ça ou pas?
Ça, c'est son idée. Oui, mais moi, j'ai pas approuvé, je l'ai pas encouragé, mais ça avait l'air de beaucoup l'amuser. Alors, je lui ai dit, ouais, fais-le. Et puis, il m'a dit, il y a plein de clients qui en veulent. Donc, c'est faire, voilà, mais j'approuve pas.
Sénane, vous jouez avec nous, à votre avis, qui est le menteur entre Jean-Pierre Foucault, Jean-Luc Lemoine et Valérie Benaïm?
J'hésite, mais bon...
Moi, je dirais que c'est Jean-Pierre, moi, si tu veux mon avis.
Moi aussi, j'aurais dit Jean-Pierre Foucault, je le sens menteur. Il a changé.
C'est l'histoire d'amour, là, Jean-Pierre Foucault, c'est
ouais.
ça
ouais.
Je vais dire l'histoire de Jean-Pierre Foucault, alors.
Alors attendez, d'abord, d'accord. Valérie Benaïm, est-ce que votre histoire était vraie?
Eh bien oui, car je ne mens pas.
Oui, c'est ça. Oui.
L'histoire est totalement vraie. Et donc ce soir, il y a vraiment un loup-garou chez Bernard.
Ah, écoutez, si vous avez besoin de quelqu'un de poilu, n'hésitez pas. Si vous faites un ours-garou,
pas de problème.
Jean-Pierre Foucault.
Gare Saint-Charles, à Marseille.
Voilà.
Et l'histoire était...
Vrai.
Oh là là, c'est Jean-Luc Lemoine qui disait
le fourbe,
non,
le fourbe qui cache son jeu.
J'étais sûr que c'était vrai.
Mais
moi.
Non, mais c'est tout à fait vrai, Bernard.
Il va vraiment dans un bar et tout, mais c'est pas du tout ce qu'il prend tous les matins.
Surtout, je prendrai jamais du coca le matin, parce que c'est vraiment le truc qui a trop de sucre. Alors là, moi le matin, j'essaie d'éviter le sucre pour pas me défoncer. Pour écrire, il faut un truc. Je prends du thé vert.
Voilà, Valérie Benaïm, elle prend du coca, c'est vrai, tous les matins du soda.
Ouais, je sais, c'est vrai.
Mais elle pétille.
Voilà, c'est là. Je ne pourrais jamais prendre ça.
Sénane, malheureusement, c'est perdu, mais je vous offre quand même deux places de cinéma pour aller voir le film Samba avec Omar Sy. D'accord, Sénane ?
Ok, super, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation à tous.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sénane. Allez, dans un instant, il y aura un dernier petit cadeau de Jean-Marie Bigard pour Bernard Werber, puisqu'il veut nous raconter son histoire de perroquet. A tout de suite sur Europe.
Europe 1, 16h-18h30, les pieds dans le plat.
Cyril Hanouna.
C'est les pieds dans le plat sur Europe 1. Nous sommes avec Bernard Werber, qui est notre invité. La Voix de la Terre aux éditions Albin Michel est sortie le 2 octobre. Et Jean-Marie Bigard avait un dernier petit cadeau à faire à Bernard Werber. C'est l'histoire des perroquets, parce que vous l'avez félicité pour l'histoire des perroquets, hein. C'est ça,
oui,
Bernard?
Oui, parce que c'était une histoire qui rappelait aussi que derrière chaque artiste, il y a parfois quelqu'un derrière qui fait un gros boulot. Et je trouvais que c'était un hommage.
Alors, Jean-Marie, et aussi l'histoire des perroquets, c'est
et
quoi?
Et les animaux qui deviennent de plus en plus intelligents. intelligents sur cette Terre, on leur prête beaucoup de connaissances.
Jean-Marie a aussi une préoccupation sur la Terre, on en discutait.
Je sais, là, c'est sûr.
C'est vrai que la perception du temps, quelque chose qu'on perd. Dès le moment où on se pose la question, qui sommes-nous? Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on est un petit truc sur une grosse planète. Ouais. Et en fait, ça m'a l'air presque la meilleure blague, c'est l'existence de qu'on
exactement,
soit là.
On est arrivé à faire chier la planète en très 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 peu de temps. C'est-à-dire en un siècle et demi, on a fait 80% de la pollution de la planète qui se froisse un peu, qui donne des coups de queue comme la vache fait avec les mouches.
Je vais vous dire, juste Jean-Marie et Bernard, je vous arrête parce qu'il y a Valérie Benaim, on est en train de parler de planète, on est en train de parler de choses intéressantes.
Non.
Et Valérie Benaim, qu'est-ce qu'elle est? Elle est en train d'écrire des SMS sur son portable pendant que vous parlez. Alors j'ai
incroyable,
trouvé ça vraiment...
Le sans-gêne de cette femme.
Elle écrit à Laura, alors elle lui met « Yes, trop contente, t'es vraiment top, top, top
!»
Elle a rajouté qui coulole derrière.
Je vais vous lire le SMS.
Non,
c'est
tu racontes pas ma vie.
Si. Et donc elle vient de recevoir un SMS, c'est joli. Coucou ma jolie Valérie, j'ai eu mon rendez-vous téléphonique avec Delphine. Je serai normalement encore parmi vous. C'est génial.
Le dialogue de coiffeuse.
Mais ça va pas. Et tu sais ce qu'elles te disent les coiffeuses? T'es bien content de les trouver, mon gars.
Je t'embrasse fort.
Non mais ça veut dire quoi ça? Les shampooineuses et les coiffeuses.
Magnifique répartie en tout cas.
Non mais la raison, moi je défendrai les coiffeuses et vraiment et toutes les personnes autour de la coiffure et autour de l'huile de jojoba et tout ça.
Toutes les personnes qui sont autour du bulbe.
Voilà, c'est ça. Et toutes les personnes sont autour du bac. Voilà. Là-dessus, je suis à côté de Valérie Benaim. Juste, on peut se rendre compte que Valérie Benaim a des amis adolescents. Donc, entre 12 et 15 ans. Regardez, je vous lis un autre texto.
Mais ça va pas.
Moi, je m'en fous, vous pouvez lire. Alors, je vais vous le dire.
Je vais vous lire les SMS de Cyril Hanouna, puisque j'ai récupéré son téléphone. Salut alors. Mon Cyril, j'espère que tu vas bien.
C'est qui?
Ah bah, non, on fait moins le malin. Rendez-moi ça.
Ah, ça, c'est incroyable. Il s'est déballonné.
Ah bah, il est pas bien là.
Non, mais parce que j'ai lu, il y a que des SMS de sa mère.
Oui, bien sûr.
Ou bien il y a Sandy, Ronnie, Willy. Il y a que des gens avec des i dans son truc. Sans rien dire, un feuilleton américain. Allez, il y a Chucky.
Vous avez eu chaud là.
Non, pas Dieu, je peux vous dire, s'il y en a une qui a eu chaud, c'est bien vous. Parce que j'ai vu un SMS de Patoche, apparemment, ce soir, ils regarderont pas le fou la poule. ça, c'est sûr. Apparemment, ils vont faire autre chose. Allez, Jean-Marie Bigard.
C'est un perroquet qui est très très intelligent. Il est tout seul à la maison, enfin tout seul. Il y a la grand-mère qui est là, qui est très très handicapée, sur un fauteuil, elle pionce un petit peu, et un petit chat. Et le petit chat, il joue avec une balle. La balle rebondit, elle tape sur une bougie qui est sur la table. La bougie roule et les rideaux commencent à flamber. Et là, le perroquet, très intelligent, il regarde comme ça le rideau, tu vois, regarde, il dit, voilà que ça va brûler, quoi. Il se dit, au feu, au feu! Faut faire quelque chose, et dire le feu commence à prendre très fort, il s'approche, il essaye avec les ailes et tout, il se brûle la moitié des ailes, il dit bon, tant pis, et puis d'un coup il dit la grand-mère, hop, la grand-mère, il attrape le fauteuil de la grand-mère, tu vois, avec le bec, il attrape avec le bec et il tire la grand-mère pour la mettre sur la pièce à côté, elle met la pièce à côté, il prend une couverture qui est sur la banquette, et puis avec son bec, il bourre en dessous de la porte, mais il sait, faut coincer, tu vois, pour pas que le feu, il aille brûler la grand-mère, et d'un coup, il se dit, le feu, les pompiers, parce qu'il est très intelligent. Et le téléphone, il est sur le buffet. Et là, il se précipite. Il n'a pas volé depuis 30 ans, le pauvre. Il prend son élan. Bam! Il s'accroche au premier tiroir du truc. Rhin, tel un bon varapeur. Il attrape le deuxième tiroir avec le bec. Le troisième, il arrive devant le téléphone. Il dit les pompiers, comme il est très intelligent. Les pompiers, 18. Alors, tu vois, il fait tomber le robinet. C'est un vieux téléphone. Et là, il regarde les touches. Rien. Rien. Avec son bec, il fait tac, le 1, tac. Le 8, 18. Alors il y a les pompiers qui répondent, allô, oui, c'est les pompiers. Il regarde le combiné. Il sait qu'il faut pas parler, ce qui est très intelligent, faut pas parler à l'endroit où on écoute. Hein, faut parler de l'autre côté. Et là, de l'autre côté, comme il est très intelligent, il s'approche bien et il fait « Il est beau, coco
!» Elle est bonne, elle est bonne. Elle est très bonne. Bravo Jean-Marie Bigard. Bravo Jean-Marie. Allez, on rappelle La Voix de la Terre aux éditions Albin Michel, c'est sorti le 2 octobre. C'est le nouvel ouvrage de Bernard Werber. Merci Bernard d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci au public. Merci à tous d'avoir été avec nous sur Europe 1. On se retrouve ce soir dans Touche pas mon poste avec Kev Adams. C'est les questions en 4 tiers de Jean-Luc Lemoine. Bah, c'est là, c'est dans quelques minutes. Et puis on vous laisse avec Nicolas Poincaré sur Europe 1 pour Europe Soir. Nicolas, qu'on embrasse fort.